Parole de lecteur. Parole de lecteur. Une émission de Monique Fauché.
En période de confinement, les lecteurs viennent prendre le relais des auteurs. Et je me réjouis de recevoir aujourd'hui Marc Babonneau, lecteur éclairé de Marguerite Duras, qui apporte un éclairage de psychiatre-psychanalyste sur l'ouvrage intitulé India Song, dont nous avons commencé à parler la semaine dernière. Bonjour Marc Babonneau. Alors vous revenez nous voir pour... car vous avez choisi de parler de India Song et d'un texte à la fois, qui est à la fois un texte et un film. Ce dernier d'ailleurs nous permettra de rendre hommage à Michael Lonsdale qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Voilà la musique d'India Song qui tout au long de l'ouvrage, tout au long du film aussi, déploie une ambiance extrêmement nostalgique. Alors, si vous permettez, Marc Babonneau, je vais dire un mot. Je vais lire le résumé qui en a été donné par Marguerite Duras elle-même.
Bon, c'est tout à fait bien parce que ça va raccrocher avec l'émission de la semaine dernière. Et je veux dire que on a aussi pour raccrocher donné une autre version d'India Song parce que là on a adjoint à la musique de Carlos D'Alessio la chanson qui a été composée ultérieurement pour Jeanne Moreau. Donc on a la version à la fois musicale et chantée.
Parfait.
Et puis voilà le résumé par Marguerite Duras elle-même.
D'accord. Alors, c'est l'histoire d'un amour vécu aux Indes dans les années 30, dans une ville surpeuplée des bords du Gange. Deux jours de cette histoire d'amour sont ici évoqués. La saison est celle de la mousson d'été. Des voix sans visage, au nombre de quatre, voix de deux jeunes femmes d'une part et voix de deux hommes d'autre part, parlent de cette histoire. Les voix ne s'adressent pas aux spectateurs, ou aux lecteurs, elles sont d'une totale autonomie. Elles parlent entre elles, elles ne savent pas être écoutées. L'histoire de cet amour, les voix l'ont su ou lu il y a longtemps. Certaines s'en souviennent mieux que d'autres, mais aucune ne s'en souvient tout à fait et aucune non plus ne l'a tout à fait oubliée. On ne sait à aucun moment qui sont ces voix. Pourtant, à la seule façon qu'elles ont, chacune, d'avoir oublié ou de se souvenir, elles se font connaître plus avant que par leur identité. L'histoire est une histoire d'amour immobilisée dans la culminance de la passion. Autour d'elle, une autre histoire, celle de l'horreur, famine et lèpre mêlées dans l'humidité pestilentielle de la mousson, immobilisée elle aussi dans un paroxysme quotidien. La femme, Anne-Marie Streeter, femme d'un ambassadeur de France aux Indes, maintenant morte, sa tombe est au cimetière anglais de Calcutta, et comme née de cette horreur. Elle se tient au milieu d'elle, avec une grâce où tout s'abîme, dans un inépuisable silence. Grâce que les voix essaient précisément de revoir, poreuse, dangereuse, et dangereuse aussi pour certaines des voix. À côté de cette femme, dans la même ville, un homme, le vice-consul de France à Lahore, en disgrâce à Calcutta. Lui, c'est par la colère et le meurtre qu'il rejoint l'horreur indienne. Une réception à l'ambassade de France aura lieu pendant laquelle le vice-consul, maudit, criera son amour à Anne-Marie Streeter. Cela devant l'Inde blanche qui regarde. Après la réception, elle ira aux îles de l'embouchure par les routes droites du Delta. Voilà le résumé écrit par Marguerite Duras elle-même. C'est très curieux. En relisant ce résumé, je me dis qu'il y a deux pendants, parce qu'il y a Anne-Marie Streeter, et puis il y a le vice-consul qui représente aussi une forme de désespoir différent, mais une forme de désespoir.
Oui, les deux sont liés au plus intime par leur désespoir, qui prend des formes différentes chez l'un et chez l'autre. Marguerite Duras le dit elle-même, c'est par le passage à l'acte, l'horreur, le meurtre, que le vice-consul exprime son désespoir. Et Anne-Marie Streeter, c'est dans un silence externe et en même temps dans une espèce d'abandon progressif de ses attaches, qu'elle se défait sous nos yeux ou nos oreilles, suivant qu'on est dans le film ou dans le texte. Et l'acmé de la rencontre de ces désespoirs est dans leur rencontre au cours de la scène centrale du bal, où les deux personnages s'affrontent, ou plutôt affrontent leur désespoir mutuel.
Alors, vous nous avez parlé la semaine dernière de ces voix qui sont une sorte de chœur antique, qui commentent, essaient de se souvenir, de rappeler à elles des souvenirs.
Ah, c'est pas les mêmes. Celles qui se souviennent, qui commentent l'action plutôt, celles qui commentent l'action sont les voix des invités de l'ambassade, et puis il y a superposé d'autres voix postérieures à l'histoire d'India Song, qui qui sont des voix qui évoquent cette histoire, maintenant passée, et qui essaient d'en extirper des éléments pour essayer de comprendre sans bien y parvenir d'ailleurs. Et c'est là que prend place la conception de Marguerite Duras du souvenir, parfois irrattrapable, et donc qui s'effiloche comme tout, finalement, comme la désagrégation des êtres, comme la fin de toutes les histoires, comme c'est-à-dire que tout s'abolit dans une disparition progressive qui nous fait disparaître dans le bruit lointain du temps.
Alors on peut entendre peut-être un extrait.
Alors,
et nous parlerons ensuite de la musique, de l'importance du cadre, etc. Il y a beaucoup de choses à dire encore.
Alors, je vais essayer de vous parler en vous lisant, avec le support des voix, de la scène centrale d'India Song. Et c'est au cours du bal donné à l'ambassade de France à Calcutta qu'Anne-Marie Streeter, l'ambassadrice, rencontre par sa propre instigation. Elle a invité le vice-consul, elle le rencontre, et là, ça va être un choc terrible pour le vice-consul, et le cri qui est au-delà des mots du vice-consul est l'ombilic de la passion à son acmé d'intensité et de douleur à la fois. Alors je commence. C'est la dernière réception avant la mousson. Comment ? La mousson n'est pas commencée. À peine, elle battra son plein dans 15 jours, jamais de soleil, pendant 6 mois. Vous verrez, on ne dort plus, on attend les orages. Elle a invité le vice-consul de France à Lahore. Oui, à la dernière minute, elle lui a envoyé un carton, venez. L'ambassadeur a laissé faire. Qui est-ce ? Le nouvel attaché, arrivé depuis un mois, il ne s'habitue pas. C'est la première fois qu'il vient ici. Il reviendra, il sera invité, il ira aux îles. C'est l'ambassadeur qui invite aux îles, pour elle, pour sa femme. À quoi devinez-vous qu'il ira aux îles ? Cette détresse dans le regard, elle n'aime pas les gens qui s'habituent. Il y en a, parfois. Les cercles fermés aux Indes, c'est le secret, n'est-ce pas ? Oui. Elle aurait pu nous éviter cette présence gênante. Qu'a-t-il fait au juste ? Je ne suis jamais au courant de rien. Le pire. Mais comment le dire ? Le pire ? Il a tué ? Il tirait la nuit sur les jardins de Shalimar. Vous le savez ? Mais aussi bien des balles ont été trouvées dans les glaces de sa résidence à Lahore. Il tirait sur lui-même. Les lépreux, on les distingue mal du reste. Vous voyez que vous savez, vous parlez des lépreux. Quelle est la version officielle ? Les nerfs qui ont lâché. Fréquent. C'est drôle, cet homme vous force à penser à lui. Regardez, Michael Richardson. Ah oui ? Il ne vient pas aux réceptions ? Jamais. À la fin seulement, vers le milieu de la nuit, il reste quelques intimes. Quelle histoire, quel amour. On dit qu'il a tout quitté pour la suivre. Tout, il était fiancé, tout, en une nuit. Regardez dans le parc. Ah, c'est lui ? Oui, quelle maigreur. Et ce visage comme greffé, quelle pâleur. Ils se connaissent ? Apparemment, non. La nuit, il tirait de son balcon. Oui, il criait aussi, à moitié nu. Quoi ? Des mots sans suite, il riait. Aucune femme à Lahore ne l'aurait connu d'assez près qui pourrait dire un peu. Aucune, jamais. Et comment est-ce possible ? Dans sa résidence, personne n'est jamais allé dans sa résidence de Lahore. C'est terrifiant, cette abstinence. Terrible. Avec qui danse-t-elle ? L'ambassadeur. Vous saviez qu'il avait enlevé un administrateur général dans un poste reculé de l'Indochine française ? Je ne me souviens plus. Savanaket, c'est ça, oui. Vous ne vous souvenez pas ? Lente chaloupe à Store, lente remontée du Mekong vers Savanaket, large coulée entre la forêt vierge, rizière grise, et avec le soir des grappes de moustiques qui se collaient aux moustiquaires. Quelle mémoire ! 17 ans qu'ils tournent en Asie. On la dirait prisonnière d'une sorte de souffrance, mais très ancienne, trop ancienne pour encore la tristesse. Pourtant elle pleure, des gens l'ont vue dans le parc quelquefois. La lumière peut-être c'est si pénible et ses yeux sont si clairs. Peut-être. Quelle grâce, regardez, oui, qui fait peur, vous ne trouvez pas? Les roses arrivent tout droit du Népal. Elle les distribue à la fin du bal. Regardez, le voilà. Il ne remarque pas que tout le monde le regarde. On voit mal ses yeux. Le visage est comme mort. Vous ne trouvez pas? Il fait peur. Oui, le rire est comme collé. Pourquoi rit-il? Qui sait? Vous avez vu, le jeune attaché parle avec le vice-consul de Lahore. C'est difficile, dit le vice-consul. Évidemment, mais quoi pour vous précisément? Et le jeune attaché répond, la chaleur bien sûr, mais aussi cette monotonie, cette lumière, aucune couleur. Je ne sais pas si je m'habituerai à ce point, c'est-à-dire j'étais sans a priori à mon départ de France. Mais vous, avant Lahore, auriez-vous préféré autre chose? Rien. Lahore était ce que je voulais. Le protocole veut que l'on fasse une danse avec l'ambassadrice de France. Regardez, il a quitté le jeune attaché, il est retourné dans le parc. Encore, depuis le commencement de la soirée, il revient là, prêt à fuir, on dirait. Et en même temps, que regarde-t-il? L'ambassadrice de France qui danse en ce moment avec le jeune attaché. On dit que parfois elle traverse des crises graves. Vous parlez du voyage à Chandernagor, n'est-ce pas? Oui, et d'autres choses. Quelquefois, elle s'enferme. Personne ne la voit. Que lui, Michael Richardson. Oui, bien sûr. Ce n'est ni pénible, dit Anne-Marie Streeter, ni agréable de vivre aux Indes, ni facile, ni difficile. Ce n'est rien, vous voyez, rien. Vous voulez dire que c'est impossible? Lui répond le jeune attaché. Oui, dit-elle, c'est-à-dire, peut-être, oui. Mais à ce point, vous voyez, c'est sans doute une simplification. On dit que vous êtes vénitienne. Mon père était français, ma mère, oui, elle était de Venise. Elle joue presque tous les soirs, enfin, à la saison sèche. Pendant la mousson, l'humidité est telle que les pianos se désaccordent en une nuit. Le jeune attaché, le vice-consul de France à Lahore vous regarde. Il vous regarde depuis le début de la soirée. Vous ne l'avez pas remarqué? Mon mari vous a dit, nous aimerions vous avoir aux îles. Je serai heureux de venir, dit le jeune attaché. Serez-vous tenu de danser avec lui? Je ne suis tenu à rien, mais... Cette nuit, il était dans le parc, vers les tennis. Il dort mal, je crois. Il vous regarde encore. La répulsion est un sentiment que vous ignorez? Je ne comprends pas. Comment l'ignorer? L'horreur. Il parle de la lèpre. Une mendiante est entrée dans le parc. Je sais, c'est celle qui chante, vous savez. C'est vrai que vous arrivez à Calcutta. Elle chante, il me semble, un chant de Savanakhet. Elle nous intrigue. Je me dis que je dois me tromper. Ce n'est pas possible. Nous sommes à des milliers de kilomètres de l'Indochine, ici. Comment aurait-elle fait? Je l'ai entendue dans l'avenue tôt le matin. C'est un chant gay. Les enfants le chantent là-bas. Elle a dû descendre par les vallées des fleuves. Mais pour passer la chaîne des Cardamones, comment a-t-elle fait? Elle est tout à fait folle. Oui, mais voyez, elle vit. Parfois, elle vient aux îles. Comment? On ne sait pas. Elle vous suit, peut-être. Elle suit les Blancs. Ça arrive. La nourriture. Ça devait arriver, regardez, le vice-consul de Lahore se dirige vers Madame Streeter. Vous avez vu l'ambassadeur? Quelle adresse, il a évité la corvée à sa femme. Où sont-ils? Dans le deuxième salon. Remarquez, tôt ou tard, l'ambassadeur devait y arriver, à lui parler, alors. Qu'attend-il pour quitter la réception, aller au-devant de la honte comme ça?
Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une pause?
On va arriver à la rencontre avec le vice-consul et au cri. Alors, donc le vice-consul rentre de nouveau dans l'ambassade et parle à Anne-Marie Streeter. Je ne savais pas que vous existiez. Calcutta est devenue pour moi une forme de l'espoir. J'aime Michael Richardson, je ne suis pas libre de cet amour. Je le sais. Je vous aime ainsi, dans l'amour de Michael Richardson. Ça ne m'importe pas. Je parle faux, vous entendez ma voix, elle leur fait peur. Oui, de qui est-elle? J'ai tiré sur moi Lahore sans en mourir. Les autres me séparent de Lahore, je ne m'en sépare pas. C'est moi Lahore. Vous comprenez aussi? Oui, ne criez pas, oui. Vous êtes avec moi devant Lahore, je le sais, vous êtes en moi. Je vous amènerai en moi et vous tirerai avec moi sur les lépreux de Shalimar. Qui pouvez-vous? Je n'avais pas besoin de vous inviter à danser pour vous connaître et vous le savez, je le sais. Il est tout à fait inutile qu'on aille plus loin, vous et moi. Nous n'avons rien à nous dire, nous sommes les mêmes. Je crois ce que vous venez de dire. Les histoires d'amour, vous les vivez avec d'autres, nous n'avons pas besoin de ça. Je voulais connaître l'odeur de vos cheveux, c'est ce qui vous explique que je... Après la réception, vous restez entre intimes, je voudrais rester avec vous une fois. Vous n'avez aucune chance. Ils me chasseraient, oui. Vous êtes quelqu'un qu'il leur faut oublier. comme Lahore, oui. Que vais-je devenir ? Vous serez nommé loin de Calcutta. Je vais crier, je vais leur demander qu'ils me gardent ici ce soir. Faites comme vous voulez. Pour que quelque chose ait lieu entre vous et moi. Un incident public. Je ne sais que crier et qu'ils le sachent au moins qu'on peut crier un amour. Pendant une demi-heure, je sais, ils seront mal à l'aise et puis ils recommenceront à parler. Je sais même que vous ne direz à personne que vous étiez d'accord. Je reste cette nuit ici avec elle, une fois avec elle, vous entendez ? Quel malheur ! Vous devriez rentrer, je vous assure, vous avez trop bu, venez. Je reste à l'ambassade de France, je vais aux îles avec elle, je vous en supplie, gardez-moi. Elle n'a pas l'air d'entendre, mais que c'est terrible ! Une fois, une seule, je n'ai jamais aimé qu'elle. Excusez-nous, les personnages que vous êtes, ne nous intéressent que lorsque vous êtes absents. Quelle dureté, que c'est terrible, quelle horreur ! Je ne veux pas voir ça. Alors, il sort. Et il se met à crier et il crie le nom de jeune fille d'Anne-Marie Streeter, Anna Maria Guardi, son nom de Venise dans Calcutta désert. Il est sorti, il ferme la grille, au loin les mêmes cris. Le vice-consul a recommencé à crier. Il riait en pleurant, vous avez vu ? Il essaie de forcer la grille. Les mendiants ont peur. Il est parti.
Voilà encore une autre forme de transgression des conventions sociales dans un milieu tricodé où il se met à crier son amour. Il est l'histoire d'une passion mortifère parce que dans le fond, on a l'impression comme ça. Moi, tout simplement, je me dis, mais il est devenu fou.
Alors, il est devenu... il était déjà fou, alors fou d'amour ou fou
meurtrier,
de sa vie ou de sa détresse. Oui. Les deux me paraissent se combiner. Mais il exprime ce dont il a besoin pour que l'amour qu'il a pour Anne-Marie Streeter existe davantage. Il a besoin que ce soit enregistré socialement. Et donc, sa folie lui fait commettre ce passage à l'acte de ce scandale qui crée le soir du bal et où il se met à hurler et à hurler le nom antérieur, ancien, d'Anne-Marie Streeter quand elle était à Venise sous le nom d'Anna Maria Guardi. Et donc le scandale qu'il provoque ancre l'amour secret pour Anne-Marie Streeter dans une réalité sociale extérieure. Donc c'est ce passage à l'acte qui est finalement l'inscription de sa passion dans le monde externe.
Alors, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit de l'importance de la musique, vous avez choisi plusieurs morceaux qui sont mentionnés d'ailleurs dans l'œuvre, cette importance de la musique qui scande chaque moment fort du texte, India Song bien entendu, mais il y a également quelque chose qui vient tirer de la Veuve Joyeuse, et ça, on va l'écouter maintenant si vous voulez bien.
Du hast mich.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Voilà, nous n'avons plus beaucoup de temps pour parler, et encore, il y a des choses à dire, parce que, par exemple, moi, je pensais aussi à l'importance du cadre, on en a parlé la semaine dernière, mais de l'atmosphère aussi, la touffeur de l'air, l'arrivée de la mousson, l'évocation de l'attente de la pluie, c'est palpable. Et quand on sait qu'ensuite le film sera tourné dans la banlieue, quasiment la banlieue parisienne, c'est étonnant cette capacité chez Marguerite Duras d'évoquer les choses.
Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, elle a en elle une trace indélébile de l'Asie qui enveloppe beaucoup de ses textes, et je crois que c'est à cause de ce qu'elle a vécu toute son enfance et une partie de son adolescence en Asie, qu'elle a cette capacité, avec trois fois rien, quelques décors, une musique et quelques phrases qui évoquent l'ambiance oppressante de la mousson, de suggérer à qui est tout à fait préparé à l'entendre le climat au sens propre et au sens figuré, oui, de l'Inde d'été, sous la mousson d'été, et le climat délétère de l'époque, de ces ambassades où ils n'ont rien d'autre à faire que des réceptions et des amours passagères qui occupent un certain vide que leur position leur confère.
Un vide, oui, vous l'avez fort bien dit. On a cette impression d'un vide et un ennui, une langueur mortifère, je dirais, alors que dehors, tout à l'heure, on n'était peut-être pas tout à fait d'accord. Pour moi, dehors, c'est la vie. C'est le malheur, la faim, la souffrance, mais aussi, il y a une forme de vie. Alors qu'on a l'impression que là, les gens, et le film, on pourra en dire juste un mot de ce film, les personnages semblent figés dans une forme de mort. Alors, je voulais vous dire aussi...
Ah, ça, je peux vous dire un mot de ça. C'est-à-dire que dehors, c'est la survie. C'est-à-dire qu'ils meurent comme des mouches, mais ils essaient de survivre, et ça crée une énergie formidable, oui, parce que survivre, ça demande de développer un effort permanent. Donc dans cette atmosphère létale de la surpopulation, de la famine et de la lèpre, il y a quand même cette activité qui est d'essayer de survivre. Beaucoup plus que nous encore dans ce Covid actuel, mais enfin le confinement, à la fois nous met du côté de la langueur des uns, et en même temps
nous donne envie
de chercher des buts oui, pour, entre guillemets, survivre, mais en tout cas pour animer cette lenteur qui nous est imposée.
Oui, tout à fait. Voilà, alors donc l'importance de ce cadre aussi, l'importance des récitants. Alors, c'est vrai que c'est un procédé littéraire que je dirais très astucieux, ces voix, parce que finalement, elles pourraient raconter platement, finalement, l'histoire, mais là, ce sont des personnes un peu des commères quand même, Marc Babonneau, hein, vous êtes d'accord?
Ben, c'est comme dans toute réception,
oui,
dans les grands bals, dans les grandes réceptions, etc. Les gens commentent ce que fait un tel, ce que fait une telle, et qui est avec qui, etc. Donc ça, c'est la distraction au sens le plus vulgaire du terme, du socius.
Voilà. Alors, des personnages eux-mêmes. Alors, il y a les récitants, mais il y a les personnages eux-mêmes qui ont des paroles inachevées ou répétées ou alanguies. J'ai dit ce mot plusieurs fois, je crois.
Alors ça, je crois que ça va avec ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un instant, qui paraissent aussi figés, très lents, dans une langueur. Ça, je crois que Marguerite Duras veut ça, du côté de la langueur et de l'inachevé, parce que, en même temps... ça aide à comprendre le travail des voix qui essaient de se souvenir. C'est-à-dire cet inachevé, ces phrases pas finies, cette langueur un peu fantomatique renvoie au fait que tous ces personnages oscillent entre le présent de finalement l'anecdote, mais au sens fort, de la rencontre du vice-consul et de la magistrature, mais en même temps au fait que tous ces personnages ont disparu et que aussi India Song est un travail pour non pas les ranimer, mais pour aller à la recherche de ce temps perdu d'India Song.
Alors, parlons d'un mot, parlons du film qui a été tourné, entre autres, avec Delphine Seyri, la formidable actrice Delphine Seyri, également avec Michael Lonsdale, qui joue le rôle du...
vice-consul.
Du vice-consul, voilà. Oui, parce que l'autre Michael n'est pas Michael Lonsdale, dans un premier
non.
temps.
Alors, il y a un personnage qui s'appelle Michael Richardson, qui est l'amant de toujours de d'Anne-Marie Streeter, qui est joué par un acteur qui s'appelle Claude Mann. Ne sont pas tous à la même place.
Voilà. Donc, ce film qui a été donc tourné après la sortie de ce texte, je pense, après les...
Oui, tout à fait, voilà. C'est ultérieur, bien sûr. Le texte est préalable et puis après, elle a fait un film.
Alors, ce qui est troublant,
c'est... Mais même deux films, comme je disais.
Ce qui est troublant, c'est que dans la plupart du temps, dans ce film, les personnages ne parlent pas. Ils évoluent.
Ils évoluent sous le commentaire des voix, à la fois qui papotent, donc, et puis après, d'autres voix qui les évoquent. Dans un temps révolu.
Oui.
Donc il y a les deux niveaux.
Oui.
Et donc cette oscillation, c'est ça qui crée le trouble, je l'ai dit déjà, mais cette oscillation entre le présent de la situation de la rencontre des personnages et le passé, dans quoi ils sont maintenant tombés ou retombés, et que les voix... dans un autre temps, essaie de réévoquer pour retrouver quelque chose de cette histoire qui s'effiloche au fil des années.
Alors, ces personnages qui, dans le film, paraissent figés, moi, m'ont paru figés, qui ne parlent pas, effectivement, on se dit, sont-ils vivants, sont-ils morts ? Et on rejoint ce qui a été dit au début, en définitive, c'est à la fois le temps passé, le temps présent, la mémoire de gens disparus.
Oui, mais c'est pas que ça. Il y a la mémoire des gens disparus et en même temps le fait qu'on les représentifie de temps en temps. Donc c'est comme un rêve, c'est-à-dire dans nos rêves, constatons-le, nos disparus réapparaissent. Et nous vivons avec eux des histoires travaillées dans des scénarios très compliqués par les mécanismes du rêve. Mais dans le rêve, dans l'onéroïde d'une pensée qui n'est pas la pensée logique du jour, dans les brumes du sommeil, un climat onéroïde s'installe où la pensée se défait en partie et le temps n'existe pas dans l'inconscient, l'inconscient ignore le temps et donc nous retrouvons des personnages d'autrefois qui se représentifient. C'est un peu ça le climat aussi d'India Song, c'est-à-dire ce balancement entre la réapparition dans l'inconscient de personnages dans le rêve qui nous sont chers et qui font partie, qui tournent dans notre psyché, et puis après la constatation au réveil qu'ils sont disparus, qu'ils sont loin dans le temps, et que seul le souvenir nous permet de faire le va-et-vient entre le rêve et la réalité de leur disparition.
Voilà, alors donc, vous nous aviez dit que c'était un livre, un texte sur l'amour, mais c'est aussi un texte sur le départ, sur la mort. Aussi.
Pourquoi l'empêcherait-il l'autre ?
Ah mais oui, non, pas du tout, pas du tout. Alors, pour terminer, voilà, le temps s'est écoulé pour le coup. Vous avez choisi de passer à une musique qui se trouve d'ailleurs dans l'œuvre de Marguerite Duras, c'est la Rumba des îles. Pourquoi ?
Alors, la Rumba des îles, c'est une autre musique de Carlos D'Alessio qui irrigue aussi le film, mais qui est elle a l'intérêt de croiser les voix, alors cette fois-ci de Marguerite Duras elle-même et de Jeanne Moreau, qui font une espèce de dialogue qui résume l'ambiance générale de l'œuvre.
Voilà. Un grand merci, Marc, de vous être prêté à deux émissions
merci
sur Marguerite Duras. Et voilà, et nous écoutons avec vous, donc, la rumba des îles. Merci, au revoir.
Dessous le Bengale.
Cette poussière là-bas.
Calcutta central.
Cette rumeur.
Le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs.
La lèpre.
Cette couleur verte, elle grandit.
L'océan Indien.
Ces joncs.
Le riz. Elles vont vers le Coromandel.
Sur les talus, ces taches sombres.
Les gens. La densité la plus élevée du monde.
Ces miroirs noirs.
La rizière indienne.
Ces lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim.
Oui. Le jour vient.
Cet amour.
L'amour.
On danse à l'autre bout du hall.
Les touristes de Ceylan.
Qu'elle est blanche. Qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta.
Pendant 6 mois ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil.
Morte là-bas.
Aux îles. Trouvée morte. Une nuit.
Ce mot.
Désir.
Celle qui vient. Dans cette odeur de fleurs.
Une mendiante.
Folle.
C'est ça. Elle vient de Birmanie.
Maigre.
La faim.
À Calcutta, elles étaient ensemble.
Oui, c'était pendant les mêmes années.